Bonjour à tous, il est 14h03 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, un des plus grands empires du monde, né il y a 2500 ans, l'Empire Perse.
Seul maître de la multitude, je suis le grand roi, le roi des rois, le roi du pays de toutes les ethnies. Voici le royaume que je détiens, depuis les Sakas jusqu'au pays de Kouch, depuis l'Indus jusqu'à Sardes. Darius.
D'histoire. Il s'appelait Achéménès, le roi d'un petit peuple qui s'était installé il y a 2800 ans, quelque part au sud de l'Iran, les Perses. Personne ne pouvait alors imaginer que la dynastie à laquelle il allait donner son nom, les Achéménides, régnerait un jour sur un des plus grands empires du monde. Fondé par Cyrus en 550 avant notre ère, l'Empire perse allait du Nil jusqu'au pied de l'Himalaya et du Danube à la mer Rouge. Dans leur palais d'Ectaban, de Suse ou de Persépolis, Cyrus et ses descendants, Cambyse, Darius et Xerxès, ont régné sur une mosaïque de peuples auxquels ils ont imposé leur autorité pendant 2 siècles, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. On n'entendit plus alors parler de l'Empire perse, jusqu'à ce que 2300 ans après sa disparition, dans l'ancienne capitale de Darius, le Shah d'Iran rappelle au monde entier que son pays était naguère une des plus grandes puissances de l'Antiquité. France Inter, Michel Forgit, le 15 octobre 1971.
Persépolis a donc revécu aujourd'hui les heures glorieuses de Cyrus le Grand. C'était en effet la grande parade historique retraçant l'évolution des armées perses à travers les siècles. Jean-Marie Cavada y assistait pour nous.
De Cyrus à Reza Shah, les armées de 10 dynasties, c'est-à-dire 3 avant l'islam et 7 après, ont défilé devant l'extraordinaire site de Persépolis. Sur les marches des ruines, des soldats de l'époque achéménides, impassibles pendant 3 heures au soleil, montent la garde. Guerriers à pied, à cheval, sur un bateau de la flotte antique tracté, soldats à dos de chameau ou bien chevauchant des coursiers drapés d'or, ce fut un spectacle cinématographique vraiment digne de Cécile B. 2000. Il faut dire cependant que c'était Abel Gance qui y avait prêté son concours pour la mise en scène.
Bernard Hébert, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien l'Iran, le berceau de l'ancien empire perse, l'empire d'une dynastie dont le Shah d'Iran, 8 ans avant sa chute, se considérait, on vient de l'entendre, comme un peu le dernier héritier. Alors c'est un empire que l'on retrouve dans 2 romans historiques que vous avez écrits aux éditions numéro 1, Darius, roi des rois, et le couronnement d'Esther. Esther qui était, je crois, une des épouses d'un des empereurs perses, on appelait ça les grands rois.
Esther est une princesse juive qui a épousé le 4e roi de la dynastie perse, continuant ça, disons, les rapports privilégiés qui ont souvent uni l'Empire perse et le peuple hébreu. Le premier roi Cyrus, lorsqu'il a fait le siège de Babylone, en a chassé le roi assyrien Nabonide, a libéré les juifs de leur exil et s'est fait de grands amis parmi les juifs, notamment Daniel, le fameux Daniel de la fosse aux lions.
Oui, effectivement, il faut rappeler que ces empereurs perses, ces rois, ces grands rois, comme on les appelait, étaient très tolérants avec les autres religions. Ils les ont toujours respectés, que ce soit le judaïsme, que ce soit, par exemple, les dieux égyptiens, puisqu'ils ont régné jusqu'en Égypte.
La théologie des Perses était basée sur un dieu unique qui s'appelait Ahura Mazda, dont le grand livre l'Avesta, qui avait été écrit par un prophète Zarathoustra, qui est assez peu connu, dont l'histoire est assez peu connue, et ce qui explique sans doute les rapports privilégiés avec l'autre grande religion monothéiste. La fameuse reine Esther, je vous rappelle que son nom signifie étoile. C'est évident. Quoi dire d'autre? Ces religions monothéistes étaient la clé du pouvoir, je crois, pour les princes perses. Un seul dieu à adorer, c'était tellement moins de clergés à financer Il n'en pouvait plus, il avait tellement de peuple sous sa coupole. À chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il avait le clergé de 5 ou 6 dieux à honorer. Alors, il a respecté toujours les dieux des pays dans lesquels il allait, mais son dieu personnel était Ahura Mazda.
Alors, vous rappelez que cet empire est absolument immense. Ils ont été accueillis d'ailleurs plutôt en libérateurs, puisqu'avant eux, il y avait les Assyriens, il y avait les Babyloniens qui n'étaient pas commodes. Et alors, c'est Cyrus qui a fondé cet empire perse en 550 avant notre ère, et qui est un empire immense. Je crois qu'on n'en avait jamais vu d'aussi grand dans l'histoire jusqu'à cette époque. Alors, un empire que Cyrus a étendu à l'est jusqu'à l'Indus, c'est-à-dire jusqu'aux frontières de l'Inde actuelle, à l'ouest jusqu'en Asie mineure, jusqu'aux villes grecques d'Asie mineure, qui étaient sous l'autorité justement de Cyrus, que Cyrus avait conquise, Bernard Hébert.
Alors, les conquêtes de Cyrus se sont effectivement arrêtées au bout de l'Asie mineure, c'est-à-dire ce qui correspond à la Turquie actuelle. L'empire a été, et vers l'est, il a été effectivement jusqu'à l'Indus, comme vous le disiez tout à l'heure, jusqu'à l'Himalaya également. L'empire a été agrandi ensuite sous le règne de Cambyse, qui a conquis l'Égypte.
Cambyse, le fils de Cyrus.
Cambyse était le fils de Cyrus, l'Égypte. Et disons ce qui correspond à peu près à la Libye maintenant. Il a même peut-être été jusqu'en Éthiopie.
C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, c'est que Cambyse, le successeur de Cyrus, Cambyse a même été pharaon, il a fondé une dynastie, on l'oublie toujours que ce sont les Perses qui sont à l'origine, je crois, de la 27e dynastie. Donc oui. Là aussi, ils étaient pharaons en même temps qu'ils étaient rois de l'Empire Perse.
Oui, les dynasties de la basse époque en Égypte étaient souvent d'origine, les pharaons étaient souvent d'origine étrangère. Les pharaons perses ont d'ailleurs été très très mal vus par les Égyptiens pendant tout le temps où ils y sont restés, et ce sont les pharaons grecs qui leur ont fait suite avec Alexandre le Grand.
Alors après Cyrus et Cambyse, les deux premiers grands rois, comme on les appelait, de l'Empire Perse, après des conquérants, donc arrive Darius, qui est un peu un usurpateur, qui monte sur le trône en 521. Alors lui, c'est plutôt, Darius, un administrateur, c'est l'organisateur de cet empire, qui était divisé en satrapies. Hein. C'était des satrapes qui étaient des espèces de gouverneurs ou de préfets des grandes provinces de l'Empire, c'est ça Henri Bay.
Bernard Hébert, le satrape, c'était le gouverneur qui gouvernait un pays au nom du roi perse. Darius leur avait dit aux satrapes, enrichissez-vous tant que vous voulez et donnez-moi ce que vous me devez, au-delà tout sera à vous. Et il y a une expression qui restait dans la langue française, mener une vie de satrape.
Oui. C'était une belle vie. Ils avaient des jardins immenses qu'on appelait des paradis. Magnifique. Mais et alors, ces satrapies étaient reliées entre elles par des routes gigantesques. Il y en a une qui faisait 2400 km, elle est de Sardes, c'est-à-dire de l'extrémité ouest de la Turquie, jusqu'à Suse, qui était une des capitales de l'Empire. En fait, il y avait plusieurs capitales, c'est des capitales itinérantes, l'Empire perse.
Alors, je réponds à votre première question. Pour aller, disons, de Suse jusqu'à Sardes, c'était un voyage de 3 mois.
Ah oui.
C'était un voyage de 3 mois qui était ponctué tous les 6 parasangs. Le parasang, c'est la mesure de longueur qui fait à peu près 6 kilomètres. Tous les 6 parasangs d'un caravansérail ou d'une auberge. La deuxième question que vous m'avez posée.
Et puis alors bon, justement, ces routes reliées entre elles, enfin, partaient toutes des capitales, parce qu'il n'y avait pas une capitale. Ah oui. On parle de Persépolis, il y en avait plusieurs. Quelles étaient les capitales de cette
empire? Les cinq capitales des rois perses étaient Persépolis,
fondée par
Darius Exercès et embellie au fur et à mesure des rois successifs. La construction de Persépolis a duré plusieurs centaines d'années vraisemblablement. Suse qui est, disons, à peu près à l'embouchure de l'Euphrate, actuellement en Mésopotamie. Passagarde, qui est une des plus anciennes capitales fondées par Cyrus, un petit peu au nord de Persépolis. Et Ecbatane, qui est dans l'actuel Kurdistan.
Alors
la cinquième, la plus grande, Babylone.
Alors justement, bon, ces capitales, c'était des capitales itinérantes. Enfin, les empereurs ou les rois, les grands rois, se déplaçaient de capitale en capitale. Et alors sur ces routes, qui servaient aussi à déplacer une armée qui était phénoménale. L'Empire perse était connu pour l'importance de son armée, qui était redoutable. Bernard Hébert.
Alors, le grand corps des soldats des rois perses était le corps des 10 000, qu'on appelait également les immortels. C'est un corps d'élite qui groupait 10 000 fantassins et cavaliers. Ils étaient bien sûr mortels, surtout avec la vie qu'on leur faisait mener. Ils mouraient très souvent au combat. Mais dès que l'un était mort, il était immédiatement remplacé par un autre, de telle sorte qu'il reste toujours 10 000.
Et une armée que Darius lui-même va essayer d'envoyer plus loin encore que les limites que Cyrus et Cambyse avaient données à l'Empire Perse, puisqu'il va tenter de s'emparer de la Grèce en attaquant les Grecs à Marathon en 490 avant Jésus-Christ.
À quoi penses-tu, Darius ?
À la puissance de mon armée.
Tu verras que nous n'aurons même pas besoin de combattre. Les Athéniens et les Grecs n'attendent plus que toi pour les débarrasser des quatre ambitieux qui les gouvernent.
Les Perses ne sont qu'à 100 stades de nos murs.
Que signifient ces paroles ? Que nous devons nous rendre et accueillir les Perses comme des amis ?
Sans aide, nous ne réussirons certainement pas à repousser Darius et ses hommes.
Ificiens ! Sauve-nous, messieurs !
Défends-nous contre les Perses !
C'était l'extrait d'un vieux péplum de Jacques Tourneur, la bataille de Marathon, où le grec Milciade a repoussé l'armée de Darius en 490 avant Jésus-Christ. Comment expliquer, Bernard Hébert, que un aussi petit pays que la Grèce ait pu repousser, défier l'immense empire perse?
D'abord, ce ne sont pas les Grecs qui ont défié les Perses, et les Perses qui ont envahi les Grecs.
Faire face, tenir.
C'est effectivement une grosse question qu'on peut se poser, avec peut-être un début de réponse. Les Perses étaient des terriens, ils avaient une armée de terre, et les Grecs étaient des marins. Ils étaient implantés sur ce qu'on appelle la Grèce actuellement, sur toutes les îles ioniennes, qui sont des myriades, et également sur toute la côte d'Asie mineure, et on peut dire qu'ils tenaient la mer. Lorsque Darius a fait construire une flotte, il a recruté ses marins parmi les Juifs, parmi les Phéniciens et également pour la majorité parmi les Grecs. La flotte de Darius puis la flotte de Xerxès était en grande partie montée par des marins grecs.
En tout cas, ça n'a pas empêché justement Darius d'être battu pendant
une petite première guerre. L'auteur du péplum, comme moi-même d'ailleurs, a choisi d'emmener Darius à la bataille de Marathon. Et en fait, si on se réfère à nos sources c'est Hérodote, Darius n'était pas présent à la bataille de Marathon.
Ah bon ?
Non, il avait deux généraux dont l'un s'appelait du joli nom de Artaphrénès, l'autre j'ai oublié son nom.
Alors cela dit, justement Bernard Hébert, 10 ans plus tard, le successeur de Darius, Xerxès, lui, il sera dans la deuxième guerre médique, dans une autre, présent dans une autre bataille, encore une défaite, cette fois-ci une défaite navale à Salamine. Hein, c'est la deuxième guerre médique, les Grecs une fois de plus repoussent les Perses.
Oui, alors là, la guerre de Xerxès, c'était vraiment une vraie guerre. Marathon, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, a été mené par Darius. Disons, c'était presque une petite guerre avant de rentrer chez lui. Il rentrait d'une expédition qui avait duré 2 ans contre les Scythes. Vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, mais ça vaut quand même le coup.
Il y a tellement de peuples.
Il a agrandi son empire jusqu'au Danube. Il a fait le tour de la mer Noire et Hérodote raconte l'expédition chez les Scythes. L'armée perse est morte de froid là-haut, ce qui laisse penser qu'ils sont montés très haut dans le nord en Ukraine, vraisemblablement le long du fleuve Don ou du fleuve Dniepr. J'ai fini la parenthèse.
Bon, alors donc ils reviennent encore, ils subissent un nouvel échec devant les Grecs à Salamine, et puis alors ils se replient, vont se replier. Xerxès va rentrer chez lui dans ses multiples capitales, à Persépolis ou encore à Suse ou à Babylone, et pendant 150 ans encore d'ailleurs, les fastes de l'Empire des Achéménides vont fasciner les historiens de l'époque, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, les Perses ont gardé auprès des Grecs et des Romains l'image d'une royauté très éprise de faste. Les premiers hommes de l'histoire à se rendre célèbres pour leur luxe furent les Perses, affirme le grec Athénée. Les rois passent l'automne à Persépolis et le reste de l'année à Babylone. Alors, ces déplacements royaux sont l'occasion d'un déploiement de richesses incroyables. Quand on lit par exemple, la description qu'en donne l'historien latin Quinte Curce, on voit que les auteurs de péplum n'ont rien inventé. Dès que le soleil brillait, écrit Quinte Curce, de la tente royale, la trompette sonnait le signal du départ. Voici l'ordre de marche du cortège. Le feu, qualifié chez eux de sacré et éternel, était porté en tête. Les mages, ensuite, chantaient un hymne national. Derrière venaient 365 jeunes gens recouverts de manteaux de pourpre, puis un char consacré à Ahura Mazda, tiré par des chevaux blancs, suivait la cavalerie, puis ceux que les Perses appellent les immortels, environ 10 000 hommes. Venait enfin le char d'où le roi en personne dominait tout. Sur ses deux flancs, le char était décoré d'images des dieux, d'or et d'argent, de pierres précieuses étincelantes. Entre deux statues, un objet sacré, l'aigle d'or, semblait déployer ses ailes. Et ce n'est pas tout, viennent ensuite les lanciers, et je vous épargne toute la description, les fantassins, les épouses, les enfants, le troupeau d'eunuques, qu'on ne méprise point dans ce pays, précise Quintecurse, puis 360 concubines et 600 mules et 300 chevaux, chameaux, et enfin les domestiques. Lorsque le roi des Perses fait ainsi le tour de son royaume, les dirigeants des villes doivent venir à sa rencontre, c'est une obligation, et lui offrir des cadeaux. À Babylone, raconte Hérodote, le satrape avait jonché le chemin entier de fleurs et de couronnes et disposé des autels d'argent chargés d'encens et de parfums divers. Puis venaient ses présents, du bétail, des chevaux et même, dans des cages, des lions et des panthères. Alors les habitants aussi sont tenus de nourrir le roi et toute sa suite. Même les paysans pauvres doivent cette allégeance. Les laboureurs, écrit le Romain Hélien, tous ceux qui travaillent leur petit lopin ne lui offrent rien de superbe, un bœuf, une brebis, du blé ou du vin. Les plus pauvres présentent du lait, du fromage, des dattes. Lorsque le roi passe, chacun expose sur la route ce qu'il a apporté. Mais il arrive aussi au roi de lui-même de donner, lors de ses fameux festins dans ses paradis. On lit, par exemple, dans la Bible, dans le livre d'Esther, « Le roi offrit à tout le peuple de Suse un festin de 7 jours dans l'enclos du jardin du palais royal. Des tentures de coton blanc ou de pourpre violette, des colonnes de marbre, des divans d'or et d'argent jonchaient le carrelage où alternaient porphyre et marbre blanc, nacre et marbre noir. Et le vin royal coulait abondamment grâce à la munificence du roi des Perses. »
Extraordinaire, les fastes de la cour des grands rois. Bernard Hébert, on retrouve ça aussi dans votre livre, Le Corbeau d'Esther.
Effectivement, le tiers au moins de mes deux bouquins est passé se passe en fête, en bataille navale, en festin,
très important,
en scène
le festin,
de nuit. Oui, et même parmi mes héros préférés, il y a un eunuque qui est un type extrêmement gentil, qui est le mentor de la reine Esther, et qui, un petit passage qui se situe au niveau de la vie du roi Xerxès, c'est donc ce mariage avec la reine juive, sur lequel j'ai choisi de centrer mon livre, parce que un roman historique n'est jamais qu'un faisceau,
Mais là, on a entendu des textes, Bernard Hébert, des textes d'historiens de l'époque, ou qui, un peu postérieurs.
Très postérieurs.
Pas Hérodote. Hérodote, il avait quand même vécu, il a vécu à l'époque de ces grands rois. Et on est quand même surpris de voir qu'un historien grec comme lui ait pu être fasciné par un pays, par un empire qui avait tout de même attaqué la Grèce. Cela dit, vous m'avez rappelé aussi avant l'émission qu'il était, en fait, citoyen perse, en quelque sorte, puisqu'il appartenait, il était dans une ville grecque qui appartenait à l'Empire perse.
Oui, alors, il est effectivement Hérodote d'Halicarnasse. La reine d'Halicarnasse avait une flotte qu'elle a mise au service du roi Xerxès et s'est battue pour Xerxès à la bataille de Salamine. Même Xerxès, en regardant la bataille, il était sur un rocher au-dessus de la baie de Salamine, et il voyait sa flotte au début de la journée bien se battre, et à la fin de la journée être sur le point de se faire couler. Et quand il a vu le bateau de Artémis d'Halicarnasse qui se conduisait tellement bien, il s'est tourné vers ses voisins en leur disant « Regardez comme cette femme se bat mieux que les hommes !» Et Artémis d'Halicarnasse venait d'éperonner un bateau ennemi. Malheureusement, le bateau ennemi n'était pas un bateau ennemi, c'était un autre bateau perse qu'elle avait éprôné pour se faire une
route. Parce qu'en fait, les Grecs se battaient souvent comme mercenaires au service des grands rois, au service des empereurs de Perse.
Oui, oui, c'était monnaie courante dans l'Antiquité. Le deuxième grand historien des Perses, Xénophon, qui vivait 160 ans plus tard, c'était pas n'importe qui, c'était un philosophe, élève de Socrate, qui a écrit des milliers et des milliers de pages et qui était engagé comme mercenaire dans l'armée du roi Artaxerxès II ou III.
Une armée de mercenaires, d'ailleurs, qui a connu une expédition fabuleuse, je crois qu'un jour on en parle, on appelle l'expédition fois, des Mille, hein, qui était toute la traversée de l'Empire perse quelques temps avant la disparition justement de cet empire, parce que Bernard Hébert, au moment des fastes dont on vient d'entendre parler dans les textes de l'époque, de ces historiens, l'Empire est déjà sur le déclin. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que cet empire, il a encore duré 150 ans après la défaite de la Deuxième Guerre Médique, quand se fait-il que cet empire ait pu, comme ça, en quelque sorte, s'effondrer un peu sur lui-même? Je crois que le poids des impôts fait que ces Perses, au fond, qui étaient plutôt bien accueillis à l'époque de Cyrus en libérateur, le poids des impôts était tel que les peuples de l'empire commençaient à râler un peu quand même.
Oui, de toute façon, on ne peut pas parler vraiment de déclin rapide de l'Empire perse. Je vous rappelle qu'il a duré 200 ans, ce qui est assez exceptionnel et qui n'a peut-être jamais été refait, sauf par l'Empire romain, bien entendu.
Oui, mais il y a eu beaucoup de révoltes, vous le rappelez, justement, aussi.
Des révoltes incessantes. L'armée perse était immense et elle passait les trois quarts de son temps à mater des révoltes, et à mater souvent des satrapes qui se révoltaient contre leur roi. Mais l'Empire est quand même resté intact pendant 200 ans. Bon, qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des complots, il y a eu des rois assassinés. Vous savez, ça se fait encore beaucoup là-bas, hein. En Afghanistan, par exemple, jusqu'au début du siècle, on ne prenait la place du roi précédent pratiquement qu'en le tuant.
En tout cas, l'Empire n'était plus aussi puissant qu'à l'époque de Cyrus, hein, lorsqu'en 334, le roi d'un tout petit pays, la Macédoine, s'emparait en quelques années de l'Empire du dernier descendant des Achéménides, Darius III.
Pour Alexandre, écrit. Le maître de toutes les nations d'Asie, c'est moi, Darius le Perse, le roi des rois, roi des pays où l'on parle toutes les langues, a fait rassembler dans les plaines de Babylone une armée telle que le monde n'en a jamais vue afin de lutter contre toi, Alexandre. Nous te prions donc d'obéir, retire-toi, retourne dans ton pays, dans le giron de ta mère Olympias.
Soldats, nous conquérons et détruirons cet empire des Perses.
Alexandre! Alexandre! Alexandre!
Aujourd'hui, je revendique toute l'Asie comme terre de conquête.
Et ce sera chose faite en 2 ans. Alexandre va battre l'armée perse, s'emparer de Persépolis, provoquer la fuite de Darius III, qui sera d'ailleurs assassiné en 330 par un de ses satrapes, ce qui prouve d'ailleurs que finalement, on respectait pas trop cet empereur, en tout cas à la fin de l'Empire, Bernard Hébert. Comment ça se fait d'ailleurs là aussi que la conquête ait pu se faire si rapidement?
La conquête d'Alexandre. Je pense que l'Empire était... D'abord, l'armée d'Alexandre était beaucoup plus puissante, beaucoup plus motivée. Alexandre avait cette... cette aura, ce charisme d'un Napoléon, par exemple, qui fait que des grands empires, même bien solides, lui cèdent.
Puis il faisait peut-être
aussi. Je pense que 200 ans, c'est quand même très long. C'est quand même très long.
Puis Alexandre, au fond, reprenait la même méthode que les tout premiers empereurs de l'Empire perse, les premiers grands rois, Cyrus, etc. C'est-à-dire, dès qu'il arrivait quelque part, il respectait les populations locales, les civilisations, etc. Les religions locales. Il a repris un empire qui était tout fait pour lui, parce que avec lui, les Achéménides disparaissent avec Darius III, mais l'Empire va un peu continuer tout de même, Bernard Hébert.
Ce que nous appelons l'Empire d'Alexandre,
c'était l'Empire de Darius.
C'est en fait l'Empire de Darius. Ouais. Ouais. Alors, la suite de l'Empire perse, qui va durer jusqu'à Charetza, ce sont les Séleucides, puis ce seront les Parthes.
Il faut rappeler ce que c'est que les Séleucides, hein, parce que Alexandre meurt très vite, d'ailleurs, il meurt 3 ans à peine après avoir... Non, un peu plus après avoir conquis son empire. Il meurt, je crois, en 323, mais alors il lègue cet empire qu'il a conquis sur les Perses, il le lègue à un de ses généraux, qui est macédonien, hein, qui n'est pas du tout perse, qui s'appelle Séleucos, et c'est comme ça qu'est née la dynastie des Séleucides.
Le fameux empire d'Alexandre vole en éclat assez rapidement et est repris région par région par des généraux qui auront une aura très différente. La civilisation grecque est restée par exemple extrêmement présente en Orient et en Extrême-Orient. Quand vous allez dans le sud de l'Afghanistan, en Bactriane ou sur les rives de l'Indus, vous avez des statues de Bouddha qui sont en fait des portraits d'Alexandre le Grand. Mmh. Une autre partie de son empire a été repris par les Séleucides, mais les plus brillants des successeurs d'Alexandre sont les Ptolémées, qui ont continué l'empire d'Égypte. Mmh. Et qui ont fondé et entretenu la ville d'Alexandrie jusqu'à, je vous le rappelle, Cléopâtre. Mmh. Ça a duré là 350 ans.
Quand est-ce qu'on peut dire que l'Empire perse disparaît vraiment ? C'est avec la conquête romaine, non ?
Non, les Séleucides donc régnaient sur un empire perse déjà très réduit par rapport à ce qu'avait été l'empire de Darius. Ensuite, on a les Parthes. Et on a une période assez troublée mais extrêmement intéressante où se côtoient le mazdéisme et la chrétienté. Et la chrétienté, hein, qui est montée, qui ont été jusque là. Et, ensuite une dynastie très brillante, les Sassanides. Mm-hmm. Et puis c'est la conquête arabe.
Et l'arrivée de l'islam.
Et l'arrivée de l'islam.
Beaucoup plus tard, oui.
Au 7e siècle. Les Perses se sont toujours distingués des Arabes, notamment en choisissant un schisme de leur religion qu'on a appelé les chiites.
Mais justement, vous qui connaissez bien l'Iran, Bernard Hébert, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'Empire perse dans un pays qui est devenu depuis musulman ? Est-ce que il reste autre chose que simplement les ruines de Persépolis ?
Je crois une grande nostalgie chez les intellectuels. Et un rejet assez profond de la part des politiques. Je n'en dirai pas plus.
C'est-à-dire qu'en fait, autant le Shah d'Iran, lui, était fier de se considérer comme le descendant des anciens grands rois, autant les dirigeants de l'actuel Iran, je n'en parle pas.
J'ai rien contre le Shah d'Iran, mais le Shah d'Iran était le dernier tyran, tyran sanguinaire, paraît-il, et depuis la chute du Shah d'Iran,
ça continue,
l'Iran... Non. L'Iran est une république.
Merci en tout cas Bernard Hébert de nous avoir rappelé l'histoire de cet empire perse que l'on retrouve aussi dans un livre que vous avez écrit avec Koram Rachedi, deux romans historiques sur l'empire perse, Darius, roi des rois et le couronnement d'Esther, publié aux éditions numéro 1. À lire également deux livres d'un des meilleurs historiens de l'empire perse que nous avons déjà reçu dans 2000 ans d'histoire, Pierre Briand, qui a écrit Darius, les Perses et l'Empire, publié chez Gallimard Découverte, et Histoire de l'Empire perse, publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, La bataille de Marathon de Jacques Tourneur et Alexandre le Grand de Robert Hossein avec Richard Burton dans le rôle d'Alexandre, un film disponible en vidéo chez MGM. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Edwin Caron et Olivier Daligaud, documentation Claire Destacan et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet difficile, la science.